Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion de Bulletin GP, à l'exception de ceux et celles qui envoient des messages de hate à l'endroit de Lance Stroll. Mon nom est Abdou Sal et ceci est l'épisode 105 ainsi que le cinquième épisode de la saison 4. Cette semaine, on va parler de Porsche et de Audi qui se rapprocheraient d'une venue en Formule 1, mais sous quelle façon? Pour nous en parler, ben, on accueille Ana Maria Mercado López. Salut Ana Maria.
Salut Adou.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Super. On est supposé avoir Julien Légaré-Turcotte, le cofondateur du groupe Facebook F1 Québec, mais présentement il est un peu indisponible. Si jamais il est là, ben, il va nous rejoindre au cours de l'épisode, mais sinon on va le faire à deux, Ana Maria. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec, évidemment, notre sujet principal, Porsche et Audi, qui, après de nombreuses rumeurs, on est encore au stade de rumeurs, mais cette fois-ci, ça semble être beaucoup plus sérieux. Le groupe Volkswagen, dans lequel on retrouve Porsche et Audi, serait favorable à autoriser l'arrivée des deux marques en Formule 1 dès 2026. Il n'y a pas de décision finale en ce moment. Et l'objectif, évidemment, c'est de profiter du virage vert que la Formule 1 veut entreprendre avec les groupes propulseurs, entre autres, et aussi cet aspect de rendre la Formule 1 carbone neutre d'ici 2030, en fait. Évidemment, pour une compagnie comme Audi, c'est de démontrer le Vorsprung durch Technik, qui est en allemand, de la traduction allemande, l'avance par la technologie. En fin mars, il y a eu une étude d'entrée en Formule 1 qui a été confirmée par le patron de Porsche, Oliver Blum, et on sait déjà que Porsche est déjà impliqué dans des grosses compétitions. Évidemment, elle participe au championnat du monde de Formule électrique en ce moment même, et dès 2023, elle compte retourner au championnat du monde d'endurance dans la catégorie principale dans l'hypercar, avec l'aide de Penske. D'ailleurs, ils ont continué leur test sur le circuit de Spa-Francorchamps, alors que Audi tente de revenir au championnat du monde d'endurance aussi, mais le projet serait présentement sous la glace, en attente, évidemment. Tout ça avec la possible avancée d'une arrivée en Formule 1 dès 2026. Alors, Ana Maria, quelle est ton impression globale sur l'arrivée possible, si c'est le jour où ce sera confirmé aussi, de Porsche et ou d'Audi en Formule 1? Et sous les airs de Kaamelott.
Oui, c'est Kaamelott, puis il a fait une petite visite. Il n'était pas prévu, mais... Je pense que les rumeurs sont sérieuses quand même, mais ils n'ont pas encore décidé sur la réglementation pour 2026, c'est une autre question aussi, mais il faut que ça se décide au moins bientôt, parce que si vous rentrez dans la Formule 1, ils vont participer aussi à ce qui sera la nouvelle réglementation de moteur, de l'unité de potence. Mm-hmm. Que c'est sûr que Red Bull est là avec, mm-hmm, l'héritage de Honda. Et moi, qu'est-ce que mon opinion, je ne pense pas à l'idée de que Audi et Volkswagen Peut-être ils vont rentrer, c'est là avec Red Bull, parce que la structure est déjà faite. Et Red Bull, il essaie d'améliorer ça. Et c'est sûr que pour Volkswagen, pour les Volkswagen Audi, ils ne vont pas commencer de tout début s'ils rentrent avec Honda. Ils vont juste continuer à développer qu'est-ce qui est déjà fait. C'est quand même une bonne idée parce que maintenant, ils n'ont pas. Comment dit-on? Avec ça, il y aurait l'avantage d'avoir une grosse marque aussi. À la place de juste avoir les moteurs Red Bull parce qu'ils ne construisent pas de voitures à eux.
Ouais, parce que là, actuellement, on a on a quatre groupes propulseurs. On a Ferrari, on a Mercedes, on a pardon, Renault avec l'aide de qui fournit uniquement Alpine et Red Bull Powertrains, qui est en fait la marque de, ben, en fait globalement le moteur Honda. Évidemment, sachant que Honda, depuis la fin de la saison dernière, a quitté la Formule 1 pour de bon, mais reste encore dans le giron du Red Bull Powertrains. Évidemment, quand on parle de 2026, évidemment, il y a cette nouvelle réglementation moteur qui se base, pour la FIA, selon quatre piliers importants, c'est-à-dire de retenir le moteur V6 turbo hybride de 1,6 litres, augmenter la puissance électrique de 350 kW. Introduire un plafond salarial pour le groupe propulseur et surtout le plus important, c'est d'éliminer le MGUH qui est en fait, si je ne me trompe pas, en fait, évidemment une des composantes, mais j'ai un blanc de mémoire, mais c'est. Mais évidemment, bon, c'est ça, c'est le moteur électrique qui est connecté au moteur thermique, évidemment, avec qui est produite pour récupérer, en fait, l'énergie dissipée au freinage. Voilà, ça, c'était le blanc de mémoire que
Ah,
j'ai
ce
eu.
serait oui, c'est en fait c'est ce qui fait marcher les RS.
Exactement, voilà, c'est ce qui fait marcher le ERS, entre autres. Donc, évidemment, les écuries Mercedes, Ferrari et Renault slash Alpine ont accepté d'éliminer le MGUH pour justement faciliter l'entrée de Porsche et d'Audi. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir accueillir un peu plus de motoristes parce que je sais que évidemment, dans le passé, il y a eu bien des constructeurs qui ont fait affaire des motoristes privés, aussi publics. Par exemple, il y a eu Ford Cosworth, il y a eu Judd, il y a eu tellement de moteurs. Même Subaru, à un moment donné, produisait des moteurs de Formule 1, Lamborghini aussi. Donc, au moins avoir une plus grande diversité en matière de moteurs parce que. Là, actuellement, des 10 écuries, on a Mercedes, McLaren, Aston Martin, Williams, qui sont des moteurs Mercedes. On a Ferrari, Alfa Romeo et Haas qui ont des moteurs Ferrari. On a Red Bull et AlphaTauri qui ont des moteurs Red Bull Powertrain slash Honda. Et finalement, on a Alpine qui utilise un moteur Renault. Donc on a
Moteur Renault.
quatre groupes propulseurs pour 10 écuries. Alors, dans l'éventualité où, par exemple, l'arrivée de Porsche et ou d'Audi était confirmée, ben, ça permettrait au moins d'avoir d'autres options pour les écuries qui veulent justement avoir des moteurs de Porsche ou d'Audi ou bien même pour les nouvelles écuries dans un futur proche ou dans un futur éloigné, évidemment, si il y a une certaine pérennité, d'avoir au moins une formule, au moins un moteur Porsche et Audi à leur disposition.
Et que ça marche aussi, parce que regarde, Manu, il y a 4 motoristes, mais ils ne sont pas trop diversifiés dans les équipes, parce que Red Bull, il est concentré juste sur Red Bull et Alpha Tauri, et Renault, il n'y a pas de client, il est tout seul, et tous les restants, c'est Mercedes et Ferrari qui accueillent toutes les équipes.
Mm-hmm. Oui, exactement.
C'est l'idée, c'est qu'ils fassent quelque chose au niveau de réglementation, que ça marche aussi et que ça ne devient pas un gros problème comme il était les BC Turbo qui n'a pas marché pendant des années.
Oui, exact. Ben, surtout du côté de Renault qui a été tout d'abord lors de la première saison 2014, ça a été très difficile, parlez-en à Lotus, à Caterham et surtout à Red Bull qui ont eu tellement de problèmes de fiabilité. Ça s'est transposé surtout avec Honda. Donc évidemment, Porsche et Audi on l'espère pas pour eux, mais risquent fortement de faire face à ces problèmes de fiabilité au cours de la première année. Et surtout que, bon, du côté de Audi, de ce que j'ai lu en préparant l'épisode, serait prête à reprendre, en fait, le V6 Turbo qui a été conçu par Porsche et qui a été testé en matière de dyno, donc pour le faire rouler sous des conditions en simulation de course ou de qualification à l'extérieur d'une voiture de course en tant que telle. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait les aider aussi. Donc, au moins, eux, ils ont... Ben, Porsche / et ou Audi ont déjà un V6 turbo actuel déjà prêt, qui était conçu, je pense, entre autres pour 2018 avec le partenariat avec Red Bull qui se terminait avec Renault. Donc, puis je pense aussi qu'il y avait des rumeurs avec Volkswagen, mais ça, je pense, c'était pas avec la compagnie en tant que tel, mais plus avec le groupe, avec Porsche aussi. Et c'est ce qui m'amène justement au point B, en fait. Maintenant que, bon, on arrive à peu près en juin ou octobre 2022, c'est officiel, Porsche, le groupe Volkswagen obtient gain de cause et va pouvoir entrer en Formule 1 en 2026. Maintenant, quelles sont les options possibles? Et il y en a beaucoup. Tu parlais tout à l'heure de Porsche qui pourrait s'associer avec Red Bull et AlphaTauri, évidemment, puisque les deux sont unifiés, si on peut dire. Et tu l'as précisé aussi, Red Bull est en train de construire sa propre usine de moteurs, le Red Bull Powertrains, qui est déjà en construction aussi, et qui utilise évidemment la propriété intellectuelle de Honda, qui sont les contracteurs de 2022 jusqu'à 2025. Et là, l'option est mise sur la table pour savoir est-ce qu'on fait affaire avec Porsche pour concevoir le moteur justement de 2026.
Oui, mais c'est une belle théorie aussi, mais je pense que selon ce qui était donné comme information, Red Bull a repris, pas juste la propriété intellectuelle, il a repris tout ce qu'il avait construit Honda pour les moteurs, parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin de ça après, qu'il se retire et Red Bull a juste récupéré tout, même les beaucoup de personnel, beaucoup de personnel, c'est comme le même monde qui travaille avec, mais avec ça aussi, ça dépend, c'est quoi la réglementation, j'imagine aussi, parce qu'il faut pas que ça change beaucoup, parce que si ça change et ça repart à zéro, c'est une autre chose. Mais si ça juste continue et change de petites choses, ça va être plus facile à travailler dans la construction de nouveaux moteurs. Et disons que si les deux compagnies reprennent les moteurs Honda, aussi pour se trouver d'autres clients, en plus, il se parle aussi de Aston Martin qui était entre guillemets en train de regarder d'autres options parce qu'avec les moteurs Mercedes aussi, ça va pas très bien. Et maintenant, on sait que justement que Ferrari pas y aller parce que les clients Ferrari sont pas là pour performer.
Ouais, effectivement, mais c'est.
D'habitude, ça marche pas. C'est vous qui vous performez en premier. Et ça reste que Renault et les options qui vont arriver au tunnel jusqu'à Red Bull et les nouvelles motoristes. On ne sait jamais parce que pour le passé, c'est des compagnies qui ont déjà travaillé.
Ouais, mais c'est surtout aussi du fait que peut-être ce serait quelque chose d'avantageux pour ben en fait l'arrivée de Porsche et d'Audi serait avantageuse pour on va dire Porsche tout simplement dans le cas de Red Bull et AlphaTauri parce que au moins s'ils utilisent les connaissances du moteur que Red Bull Powertrains a utilisé, ont utilisé en fait au cours de la période 2022-2025 et ensuite ils se préparent pour la réglementation pour 2026. Ils devraient avoir le temps en principe. Donc, en ayant Porsche dans ce cas-ci, ce serait vraiment gagnant. Et là, la question aussi que je me pose, est-ce que finalement, Red Bull ou n'importe quel autre, ou bien Porsche ou Audi tout simplement, pourrait embaucher un certain Andy Cowell qui travaillait chez Mercedes et qui est un peu l'homme derrière le succès, la fiabilité des moteurs Mercedes au cours des dernières années jusqu'à ce qu'il décide de quitter.
Oui, mais tu sais, pendant l'année dernière, quand on savait déjà que Honda quitterait, tu te rappelles, Red Bull, il y a quand même recruté des monde, comme à peu près 6 ingénieurs qui viennent de Mercedes, parce que ce n'est pas une seule personne qui fait la différence aussi. Avec pas de loge chez Williams, ça n'a pas marché du tout. Au contraire, ça tout est allé au pire. Il n'a même pas commencé à travailler quand il était déjà congédié. Mais c'est sûr que maintenant, Red Bull, il y a le contrôle. Ça a l'air qu'ils s'entendent très bien. Son moteur, maintenant, il y a un problème de fiabilité. Même s'il dit que ce n'est pas le moteur, c'est à peu près la même chose chez Renault. Mais comme la nouvelle réglementation n'est pas encore approuvée, mais c'est ça, tout le monde va chercher des avantages, ils vont chercher les problèmes, ils vont trouver les problèmes, ils vont se défaire des petites choses qui ne les intéressent pas. Et s'ils vont rentrer, ils vont essayer de proposer quelque chose que sont capables de construire aussi.
Et aussi, tu vois, il y a Joe Sauer, qui est journaliste émérite, même si il aime bâcher sur la génération Z, évidemment, qui a écrit un beau blog, un beau billet de blog après le Grand Prix d'Australie, où il parle, pardon, justement de la situation avec Porsche et Audi et plutôt de Red Bull. Qu'adviendra-t-il justement de l'équipe? Évidemment, est-ce que je regarde, est-ce que Red Bull pourrait faire un partenariat plus que moteur, c'est-à-dire un partenariat en tant qu'écurie, donc c'est-à-dire que Porsche prendrait le relais de Red Bull?
Non, j'étais sûr que non, parce que ce qu'il y a Red Bull sur la Formule 1, c'est avant tout ça, son nom. Mm-hmm. C'est sa fenêtre, c'est sa vitrine pour se montrer, c'est là que ça devient intéressant, même s'ils ne vont pas gagner, ils sont là. Ils ont déjà eu pour les passer avec Aston Martin.
Ouais.
Ça n'a pas changé, que ça s'appelle Red Bull, même si ici allait le nom Aston Martin, sa identité n'est pas disparue. Mais je trouve que s'il y a un partenariat plus long, plus avec Audi et Porsche, Red Bull ne va pas disparaître comme tel. Ils vont juste mettre les noms derrière comme ils l'ont fait avec Aston Martin.
Ouais.
J'imagine que si oui, ils n'ont pas eu de problèmes, mais...
Oui, exactement.
Audi, Volkswagen, ils ne vont pas non plus avoir de problèmes avec.
Ouais, je pense que ça pourrait être ça aussi. Évidemment, ça va être... je ne pense pas que Red Bull va quitter la Formule 1 de sitôt, évidemment, mais peut-être, évidemment, voir est-ce que ce sera... Moi, je pense que ça va rester juste avec une question de moteur et sans plus, parce que oui, dans l'article de Joe Sauer, il parle de Dietrich Mateschitz qui a actuellement 77 ans, mais je ne pense pas que ça l'intéresse d'ici 4-5 ans de vouloir se départir de pardon, de son équipe au profit de Porsche et d'être un commanditaire. Donc.
Non, parce que son équipe, étant une équipe de Formule 1, avec ça, on a déjà un profit, même s'ils ne gagnent pas. Mm-hmm. Red Bull est très concentré à faire des événements sportifs et que c'est sa meilleure façon de se montrer. Ils sont déjà là depuis longtemps, mais je ne pense pas qu'ils vont quitter.
Non.
Juste pour changer le nom de l'équipe.
Non.
Et pour rapport au moteur, c'était. Comment on peut dire? Pour Red Bull, c'était toujours un problème, mais ce n'est pas un problème.
Mm-hmm.
Parce que tant que Red Bull, il sait construire la voiture, mais juste trouver quelque chose pour la faire pousser et même si c'est chicané avec Renault, ils ont trouvé toujours qu'on fait marcher la voiture. Et tu vois, Honda, il ne marchait pas à McLaren, ils l'ont mis dans son Red Bull et ça commence à marcher quand même, ils ont gagné un championnat. Personne n'avait jamais pensé que ça pouvait arriver quand on voyait Honda casser tout le temps. Mais Red Bull a toujours gagné. Quand il a gagné les quatre championnats, ce n'était pas le meilleur moteur.
Non,
c'est juste qu'il y avait la meilleure voiture au niveau meilleur équipe, tout l'ensemble qui marchait très bien. Mais ce n'était pas le moteur le plus efficace parce que je me rappelle que Red Bull, le fameux RS, il ne marchait jamais dans sa voiture.
Mais c'est ça, ça veut dire que maintenant qu'ils vont avoir un partenaire, de vrai, on va commencer au conditionnel, mais devrait avoir un partenaire en Porsche, Maintenant, ça va être de voir quelles vont être les attentes. Est-ce que si jamais ça devait arriver, on arrive en 2026 avec une nouvelle réglementation de moteur, ou quel pied d'égalité on pourrait dire, je m'attendrai à voir Red Bull dire on veut gagner tout de suite. C'est dans l'ADN de l'écurie. Mais je dois dire, si je ne me trompe pas, avec Honda, on a été assez patient. Contrairement à ce qu'on avait avec McLaren, lorsqu'on est revenu en 2015, où c'était la catastrophe totale avec le moteur. Alors, le simple fait de voir Honda passer avec Toro Rosso, bon, slash AlphaTauri, ça a permis au moins à Honda de mieux se pratiquer pour aller vers la grosse écurie la saison d'après. Donc, ça a été au final un jeu de patience, mais avec évidemment des attentes où on veut que l'écurie soit en mesure de gagner des courses et de se battre ainsi dans le championnat sur un long terme. Donc, évidemment, je m'attendrai à la même chose avec Porsche, si ça devait arriver en 2026, mais là, au moment où ça devait péter, comme on l'a vu malheureusement entre 2014 et 2018, avec les nombreux problèmes de fiabilité, évidemment, je pense que Red Bull pourrait être très impatient. Là.
Tu vas très loin.
Ouais, je sais.
C'est pas encore même pas officiel et tu penses déjà à la désespération.
Ouais, c'est ouais, true.
Non, je pense que ça va très loin, mais c'est juste ça, parce que le problème, c'est que de nouveaux constructeurs qui arrivent, surtout des moteurs, est-ce qu'on peut s'attendre que ça marche tout de suite? Mais non, parce qu'ils ne sont pas habitués. Mm-hmm. Il faut qu'ils prennent le temps aussi de construire quelque chose. Parce que, regarde, quand la Formule E, ça marche parce que le moteur il était déjà construit. Mm-hmm. Dans la première session, le moteur il était, je me rappelle pas si c'était McLaren ou William, il était la batterie.
Je pense que ce sont McLaren. Les deux, effectivement. Je pense que c'est William,
il faisait la batterie. Ça, je suis 100% sûr, ouais. Il faisait ouais. La batterie. Mais je pense que McLaren, de côté technologie, il aidait à construire les moteurs. Mm-hmm. Et c'est ça, mais peu importe les constructeurs qui arrivaient, il y avait son moteur, il y avait Renault qui travaillait aussi sur les moteurs, il y avait Venturi qui fabriquait les moteurs, et justement, Venturi faisait déjà son moteur qui est passé à Mercedes. Mercedes, il n'y a rien découvert de nouveau.
Et qui va passer, d'ailleurs, et parlant de Venturi, qui va passer avec Maserati la saison prochaine. Donc,
c'est ça, et ça, on peut s'attendre que ça va marcher, qu'on peut demander tout de suite de performance, parce que c'est un moteur qui est déjà en circulation, ça marche, et déjà après. Mais par contre, en la Formule 1, il faut qu'il développe le moteur, mm-hmm. Il faut qu'il le fasse à nouveau, parce que c'est pas le même jeu.
Ouais, exactement. L'autre option aussi, Anna Maria, ce serait, on va parler surtout de Audi. Audi, entre autres, alors que je sens que Julien risque de se joindre à nous, donc on va lui poser encore la question. Audi pourrait s'immiscer dans la partie, mais peut-être pas comme, ben, évidemment comme motoriste, mais en ayant sa part de marché. On parlerait de probablement racheter des parts de McLaren, de s'associer avec Williams, alors que j'accueille officiellement Julien Légaré-Turcotte, cofondateur du groupe Facebook F1 Québec. Salut Julien!
Bonsoir Abdou, bonsoir Anna, heureux de vous voir.
Ouais, très content. Salut. De te voir, ça va bien?
Oui, ça va très bien, très occupé, mais je suis heureux de participer encore une fois à ce podcast. De façon pas aussi exhaustive que d'habitude, mais quand même.
Ah ben écoute, on est toujours content de t'entendre parmi nous, alors... tu es toujours la bienvenue d'ailleurs. Julien, tiens, justement, je vais te poser la question. Là, on parlait de Audi qui compte évidemment avec le groupe Volkswagen s'immiscer en Formule 1 avec la nouvelle réglementation moteur en 2026. Une des options possibles serait de s'associer avec une écurie actuelle. On parlerait de Sauber. On a beaucoup parlé d'un rachat avec McLaren, d'un partenariat avec Williams et même avec Aston Martin, pour qui ça ne va pas très bien depuis leur retour en Formule 1. Alors, est-ce que tu crois, d'abord, est-ce que tu crois que Audi pourrait passer par ce processus pour s'associer avec ou racheter, on pourrait dire, une partie d'une écurie?
Alors, il y a plusieurs choses. Si Audi souhaite s'associer tout simplement avec une écurie, je pense que c'est tout à fait possible pour eux de le faire. De ce que j'ai compris, puis on me corrigera, Audi souhaite essentiellement devenir motoriste.
Ouais.
Donc, dans l'optique où ils souhaitent le faire avec notamment McLaren, ben ça m'apparaît comme étant une option convenable. Bon... C'est sûr qu'on a entendu, on a entendu qu'il pouvait avoir quand même certains enjeux liés à l'entente entre les deux parties, notamment le montant qui serait versé à McLaren. Je pense qu'on passe de 450 millions à 650 millions, quelque ouais. chose comme ça. Bref, ouais. C'est l'un des enjeux, mais je pense quand même que ça peut se faire. Pour ce qui est d'Aston Martin, puis c'est toi, Abdou, qui me faisais part d'un excellent article à ce sujet-là. Mm-hmm. Est-ce que le groupe Volkswagen souhaite acheter une autre compagnie encore de voitures de luxe qui serait ici Aston Martin? Volkswagen dispose déjà de Porsche. Mm-hmm. Donc, y aller encore une fois avec une autre marque de voitures extrêmement luxueuses, est-ce que ça rentre vraiment dans leur modèle d'affaires? Je suis incertain. Maintenant, pour ce qui est d'Alfa Romeo, ça m'apparaît comme étant l'option qui est peut-être la plus convenable et la plus réaliste mm-hmm. présentement, parce qu'il s'agit d'une écurie qu'on sait qui souhaite potentiellement vendre, ou du moins qui est énormément courtisée par le groupe Andretti, oui. c'est le premier auquel j'ai pensé. Donc, j'ai l'impression que les négociations, si Audi veut acheter, le plus facile serait d'y aller avec Alfa Romeo.
Ouais. Et si on peut dire aussi, je pense un deal possible ou un rachat entre Audi et Alfa Romeo, et on devrait dire plutôt Sauber, parce que Sauber et l'équipe qui gère en fait l'écurie Alfa Romeo, ben ça pourrait être logique, d'autant plus que Audi a utilisé les installations en Suisse de Sauber pour leur compétition au championnat du monde d'endurance. Donc, il y aurait déjà un partenariat, il y aurait déjà, disons, des connaissances déjà utilisées. Donc, Sauber, ça pourrait être une option logique. McLaren, je sais pas si c'est vraiment une option, mais ça reste, je pense, ça reste aussi une des plus enviables. Aston Martin, surtout dans une des idées de Lawrence Stroll de vouloir créer son propre moteur. Donc peut-être avec l'aide de Audi, ça pourrait les aider. Comme on parlait avant avec Anna Maria de Red Bull et Porsche aussi, cette option aussi. Donc oui, moi je pense effectivement Sauber personnellement serait la meilleure option pour une entrée Audi, surtout comme motoriste, surtout que ça a déjà été fait avec BMW dans le passé.
Tout à fait. Puis l'une des questions que je me pose cependant, c'est est-ce que si Audi décide d'acheter Aston Martin, bon, de un, est-ce la fin de Lance Stroll? Je pense que oui. Puis de deux, est-ce que Audi va vouloir avoir un pilote allemand
pour pouvoir pousser la marque d'Aston Martin en Allemagne encore plus, parce qu'on sait qu'Aston Martin a beaucoup retenu les services de Sébastien Vettel, entre autres pour des raisons marketing, étant donné que leur deuxième marché en importance après le Royaume-Uni, c'est l'Allemagne en termes de vente. Donc, est-ce que Audi va vouloir demeurer sur cette lignée-là, puis avoir un pilote allemand nécessairement pour continuer à vendre des voitures? Moi, je pense que oui, et en l'occurrence, ce serait une très, très, très mauvaise nouvelle pour Lance Stroll, d'autant plus que son père ne serait plus vraiment là, je présume, pour le protéger.
Mais il y a une petite question, parce que vous oubliez quelque chose. Aston Martin, c'est pas un gros vendeur de voitures. Ils sont concentrés sur le luxe, le gros luxe, parce que son marché il est très petit. Disons que quand Lance Stroll rentre pour sauver, entre guillemets, Aston Martin, qui était déjà presque en faillite, c'est juste parce qu'il avait besoin de la marque sur la voiture. Quelque chose qui irait derrière l'équipe, que ça serait pas assez sérieux, serait plus sérieux Aston Martin que mettre Racing Point, c'est pas la même chose. Mais en mettant Aston Martin, c'est la plus sérieux. Disons que c'est pas le même modèle d'affaires. En question de marché, Aston Martin, il ne cherche pas le gros marché. Il cherche juste que la marque y persévère. Il reste encore. C'est comme quand on parle de, je sais pas, Maserati ou de marques d'auto plus dirais, de collection, quelque chose comme ça. Parce que à ce niveau-là, il n'y a pas d'intérêt pour Audi, par exemple, à chercher. Aston Martin serait plutôt un gros problème.
Ouais. Moi,
plus que ça, parce qu'il ne faut même pas les moteurs. À chaque voiture, ils vont chercher un moteur différent parce qu'ils vont construire juste la voiture.
Moi, personnellement, je ne vois pas Audi racheter l'écurie Aston Martin. Je le vois de base seulement comme motoriste parce que je crois que Lawrence Stroll veut quand même garder ses parts d'écurie. Évidemment, il a de grandes ambitions. L'usine à Silverstone qu'il est en train de construire, évidemment, amener l'écurie vers un titre de championnat du monde. À court terme, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais à long terme, c'est sûr qu'il le veut. Mais j'ai quand même l'impression que, pour moi, Aston Martin veut vraiment avoir Audi de son côté seulement à titre de motoriste. Si c'était pour un rachat et pour faire place à une écurie en tant que telle, ce serait personnellement quelque chose que je trouverais assez... Ce serait comme un coup de circuit pour Lawrence Stroll, d'autant plus que Audi n'a, à mes souvenirs, mais n'a jamais été en Formule 1 tout court. Donc, ce serait un énorme coup de circuit de sa part d'avoir Audi comme écurie en tant que telle, mais personnellement, je vois plus... Je verrais plus, si c'était le cas, Audi comme seulement motoriste pour l'écurie Aston Martin, mais ça risque d'être quelque chose d'assez weird à entendre. Aston Martin qui s'associe avec Audi, ça ce serait... Oh là là!
en plus, c'est comme la propriété, le luxe britannique mélangé avec...
Ah. Quand l'anglo-saxon prend tout son terme.
Si, c'est ça.
Alors, suivant cette intervention, je me permets de vous poser une question, puis peut-être a-t-elle déjà été répondue, mais oui. Quand même. Présentement, le groupe Volkswagen, comme motoriste, viserait environ 4 écuries. McLaren, Williams, Aston Martin, puis Sauber. Ben, Alfa Romeo, donc de par Sauber. Mm-hmm. Là-dedans, il y a 3 écuries dont Mercedes est présentement le motoriste. De quelle façon croyez-vous que Mercedes perçoit l'arrivée de Volkswagen en Formule 1?
Je pense qu'ils sont d'accord. Déjà, le fait d'avoir éliminé le MGUH, c'était une grosse concession pour permettre l'arrivée de Audi et ou de Porsche. Maintenant, moi, je pense que des quatre écuries que tu as nommées, celle au singulier ou au pluriel qui aurait plus... voyons, c'était le cas déjà, j'ai plein de mémoire.
Alfa Romeo.
Alfa Romeo, oui. Et ou même Williams, c'est ça. Surtout du fait que dans le groupe Volkswagen, il y a Jos Capito. Certes, il a travaillé avec Volkswagen au championnat du monde de rallye. Mais là, on parle d'entités différentes. Là, c'est pas Porsche et Audi. Mais il aurait peut-être au moins des connexions. Il aurait des connexions. Donc, dans un certain sens, je crois que Mercedes peut-être serait prête. C'est sûr, ça leur ferait mal d'avoir moins d'écuries clientes. Mais je crois qu'elles s'attendent à ça. D'autant plus que, bon, actuellement, pour avoir une 11e écurie, c'est tellement compliqué parce que de ce qu'on a lu avec. L'article de Joe Sauer que je vous ai partagé d'ailleurs en conversation privée, il y aurait quatre écuries qui seraient intéressées, dont Andretti, deux équipes de Formule 2 et une provenant de Monaco. Maintenant, c'est à savoir, est-ce que c'est une de ces. La 11e écurie serait propulsée par celle qu'on a actuellement ou bien celle qui pourrait potentiellement venir de Porsche à Audi. Ça, c'est à suivre, mais je vois que Mercedes, peut-être ça ne leur dérangerait pas.
Mais ça dépend. Mais si je comprends bien la question, comme modèle d'affaires, c'est sûr que ça fait mal s'il va perdre des clients parce que c'était la même chose qui s'est passée avec Renault. Et en principe, ils ont dit non, c'est pas grave parce que si Red Bull s'en va, pas de problème pour nous, mais tu vois ce qui s'est passé. Red Bull est parti, Renault aussi est parti derrière, pas parti derrière chez Red Bull, mais les modèles d'affaires ont changé parce qu'ils ont resté tout seuls, ils ont fait Alpine et Renault s'est retiré. Mais et la question est, Red Bull, est-ce qu'il sera d'accord, Mercedes, est-ce qu'il serait d'accord avec la nouvelle réglementation? Bien sûr, si ça leur convient, ils vont signer parce qu'il n'y a pas intérêt à empêcher les nouvelles marques de rentrer. Donc, il n'y a pas beaucoup qui ont le goût de rentrer non plus, mais... Côté client, c'est sûr qu'ils ne sont pas intéressés à perdre leur client. Et en plus, il y a déjà eu des rumeurs pour le passé que Mercedes, s'il ne gagnait pas le championnat, il se préparait déjà à vendre l'équipe. Ouais. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Rappelez-vous que... même Toto Wolff y achète de quelques participations chez Aston Martin.
Oui.
C'est pas pour rien. Et lui, il prépare aussi si c'est parce quelque chose, il met pas tous les œufs dans le même panier.
C'est vrai.
Ouais, c'est ça, il faut penser à tout ça. Si les équipes ils vont quitter, rien n'empêche Mercedes aussi se retirer et Andretti qui cherche à acheter quelque chose. Mercedes pour rester comme avant, juste motoriser quelques équipes et
aussi.
Si gagne pas les championnats, il y a ça aussi, il y a toutes les options d'ici 2026.
Mais c'est ça, puis de ma compréhension en fait, c'est que Mercedes demeurait probablement comme motoriste, mais l'écurie en soi serait achetée par Ineos.
Oui, parce qu'il y a, je pense, un tiers de... Ineos est propriétaire à un tiers de Mercedes... Et Ineos, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une compagnie britannique qui se spécialise dans l'industrie de chimie. Elle participe aussi dans les compétitions de voile et à une équipe aussi de cyclisme, évidemment, qui participe entre autres au Tour de France. Maintenant qu'on a parlé de Porsche et Audi, maintenant j'ai un dilemme pour vous. La groupe Volkswagen a deux de ses compagnies, Porsche et Audi, qui veulent aller en Formule 1. Mais ces deux compagnies se sont souvent ont souvent été rivaux. Entre autres, là actuellement, jusqu'à l'année dernière en Formule E. Bon, Audi a quitté la formule électrique, Porsche y est encore. Et surtout en championnat du monde d'endurance. Évidemment, en LMP1, entre 2014 et 2017-2018 à peu près, Audi et Porsche se battaient pour le championnat du monde d'endurance, le titre de champion du monde et pour les 24 heures du Mans. La Porsche va faire son retour avec l'aide de Penske dans la compétition en hypercar. Audi veut actuellement... avait annoncé son retour dans la compétition, mais le projet serait en suspens justement pour se concentrer en Formule 1. Est-ce que avoir Porsche et Audi en Formule 1, ce ne serait pas un peu un jeu dangereux pour le groupe Volkswagen?
Ben c'est bon, au contraire. Il y a la compétition. Plus qu'il y a la compétition, plus qu'ils vont amener les clients.
Oui, mais est-ce que financièrement, ce serait à court, moyen ou long terme quelque chose qui pourrait être avantageux pour le groupe Volkswagen d'avoir Porsche et Audi?
Mais ça dépend comment ça marche, parce que tu vois, il y a Ferrari. Mm-hmm. Il y a sa marque, j'oublie tout le temps.
Fiat.
Giovinazzi. Alfa Romeo.
Oui, mais le truc, c'est
que... Il y a Alfa Romeo, c'est tout, hein, mais ils ont les noms, il y a Alfa Romeo, mais les compagnies, ils sont comme séparées de toute façon. Fait que s'il y a une qui ne marche pas très bien, ça peut-être y a un impact sur les groupes au complet, mais des fois, ils juste vont mettre de côté, ils vont vendre, ça ne marche pas pareil. Formule E, il y a Nissan, qui appartient au groupe Renault. Mm-hmm. C'est ça.
Mais la différence, c'est que Alfa Romeo, en fait, si Julien, tu peux me corriger, c'est en fait... un prête-nom de Sauber, en fait. C'est Sauber qui est encore en Formule 1, mais sauf que Alfa Romeo a, disons, le nom. Donc, techniquement, Ferrari est seul, mais juste que Alfa Romeo, c'est juste un prête-nom pour dire que, bon, Sauber est encore en Formule 1.
Oui, mais Audi aussi. Si Audi il fait des moteurs, et Porsche ils font des moteurs, ils se battent, mais ils font juste des moteurs. Ils n'ont pas l'équipe, parce qu'on parle maintenant, c'est qu'ils vont rentrer pour fabriquer des moteurs. Ils vont avoir des clients ou ils vont avoir des équipes associées, mais ils ne perdent pas avec ça. Au moins qu'ils fassent son propre équipe. Mm-hmm. Et qu'ils vont mettre de la grosse achat, mais en tant que motoriste, je pense qu'il n'y a aucun impact, parce que de toute façon, même si ils ne gagnent pas, c'est leur client qui paye les moteurs.
Mais dans l'éventualité... Oui, vas-y, Julien.
Oui, mais personnellement, je suis un petit peu moins optimiste que toi, Anna, malgré le fait que je considère que ce soit une bonne chose que les deux compagnies soient présentes. Je m'explique. Je pense que ça va être un défi pour Volkswagen de trouver un juste équilibre pour ne pas que les performances d'une de ces compagnies soient faites au détriment de son autre compagnie. Puis, bon, tu as soulevé la comparaison entre Ferrari puis Alfa Romeo. On parle de deux entreprises, de deux marques, en fait, dont l'image est complètement différente. Ferrari produit des voitures extrêmement haut de gamme, parmi les plus chers au monde, alors qu'Alfa Romeo, on parle d'une compagnie de voitures qui, si je me fie en Amérique du Nord, mais également en Europe, que c'est dans le semi-haut de gamme. Audi et Porsche, même en ce qui a trait à leur vente de véhicules, sont déjà en compétition. On parle de deux. Oui, peut-être que Porsche va parfois être considéré comme étant un peu plus relevé, mais c'est sans oublier que Audi a, par exemple, le modèle de R8, qui est une voiture de route excessivement compétitive. Donc déjà ici, il y a quand même un certain clash qui peut se faire. Donc vraiment, le défi de Volkswagen sera d'équilibrer le tout. Ceci dit, ça demeure une excellente opportunité pour le groupe Volkswagen, puis d'avoir deux motoristes qui seront en F1, notamment pour développer en accéléré une technologie de biocarburant, ce qui est très, très important, puis qui s'annonce pour être un renouveau pour l'industrie automobile qui, oui, se fonde sur l'électricité, mais qui veut diversifier quand même son offre.
Mm-hmm. Et aussi pour finir de blanchir son nom aussi, parce que le gros scandale est Volkswagen. C'était quelque chose.
Je ne sais pas pourquoi, mais je savais qu'on allait glisser le Dieselgate. Mais au moins, ça nous a pris 50 minutes. C'est bien ça. Super.
Je ne sais pas, mais si je serais la fille et que les deux ils rentrent comme motoriste, il faut bien surveiller ça.
Mais oui, effectivement, c'est sûr que Porsche et Audi, le groupe Volkswagen est là aussi parce qu'elle pense à l'avenir. Évidemment, il y a eu Volkswagen en tant que tel qui avait conçu une voiture de course électrique pour aller battre le record de piste à Pikes Peak, gracieuseté de Romain Dumas. Et qui a réussi avec succès. Quelle voiture d'ailleurs. Donc, l'ambition de Porsche, du groupe Volkswagen, de vouloir aller en Formule 1, évidemment, pour avoir du succès en sport, de pouvoir continuer à avoir un blason sportif assez énorme, mais aussi pour justement pouvoir développer aussi cette technologie, comme tu l'as dit, Julien, surtout au niveau de biocarburant, mais aussi en matière de carboneutralité aussi, parce que évidemment c'est un objectif que la Formule 1 veut se poser en 2030. Évidemment, je sais que...
Il ne sera jamais carbone neutre, la Formule 1. Parce que même si c'est électrique, l'application... Il peut pas. C'est pas possible.
Ben, le concept de carboneutralité, en fait, s'étend quand même plus loin que ça. C'est quand même d'apposer des actions qui permettent de mitiger son empreinte écologique. Donc, c'est pas seulement de chair, mais c'est un ensemble de démarches entreprises qui permettent de rendre ça carboneutre, voire certains ont même des objectifs de carbonégativité. Mais là, on entre dans des interprétations qui peuvent être subjectives, puis ça va très loin, qui sont même parfois contestées. Donc, je pense qu'on s'étendrait beaucoup sur ce sujet-là.
Non, je glisse mot tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'il me dit carboneutre, même si tu me parles de biocarburant, c'est pas carbone neutre. Il faut qu'il s'efface de quelque façon. Même l'électricité, tu fais l'électricité, oui, est plus clean, mais tu la fais avec quoi? Avec hydro, tu la fais avec charbon. Il y a beaucoup de choses à regarder. C'est pour ça que je dis non, mais même la Formule E, il n'y a pas carbone neutre.
Je pense que cette seule question-là pourrait facilement faire l'objet d'un épisode de podcast, assez facilement.
Ouais. Et on va finir sur un débat très, très rapide. Évidemment, on sait que le Grand Prix de Russie n'existe plus. F in a chat. En fait, je pense pas F in a chat. Mais la Formule 1 cherche à remplacer le Grand Prix de Russie pour cette année. Là, les rumeurs, entre autres sorties par le groupe Motorsport et reprises justement par Joe Sauer dans l'article, parleraient d'une... On a beaucoup parlé de Joe Sauer aujourd'hui, là, et c'est la première fois en 105 épisodes d'ailleurs. Mais on parlerait d'une éventualité d'avoir un deuxième Grand Prix de Singapour. Donc, parce qu'évidemment, dans le contexte ça se placerait une semaine avant la course originale à Singapour. Et ensuite, on irait au Japon le week-end après. Évidemment, dans l'optique que, évidemment, le Grand Prix du Qatar, qui n'était pas prévu au calendrier cette année, ne soit pas disponible, évidemment, avec la Coupe du Monde de soccer qui aura lieu le 21 novembre. Est-ce que vous pensez que une deuxième course à Singapour, c'est quelque chose qui serait normalement en priorité pour la Formule 1, Julien?
Pour des raisons logistiques, je pense que oui.
Mm-hmm.
Ceci dit, pour la forme des pilotes, ça va être épouvantable d'avoir deux courses à Singapour de suite. Je les plains infiniment. Puis également pour l'équipe qui va être présente, on sait que c'est un Grand Prix qui est excessivement éprouvant. Mais je comprends que la Formule 1, bon, encore une fois, pour des raisons logistiques, pour des raisons d'urbanisme, c'est quand même relativement plus simple, semblerait, de fermer le circuit pour y tenir deux Grands Prix de suite. Je suis pas nécessairement contre l'idée. Je vais t'avouer que c'est pas un scénario auquel je m'attendais personnellement. Mais encore une fois, la F1 a des objectifs de remplir son calendrier. Et Singapour est sa seule option viable. Alors,
ainsi soit-il. Turquie, ouais. Portimao. Parce que entre de quelques personnes que j'ai parlé, ça qui sort tout le temps, c'est la Turquie. Et c'est Turquie et Portimao est là côté. Mais c'est ça. Côté logistique, c'est très facile pour la Formule 1. Mm-hmm. Si se déplacer, c'est pas bateau. Il envoie ça pour camion. Et Turquie, on sait que. Ils vont donner un bon spectacle. Et côté logistique, Singapour, ça se peut, mais est-ce que Singapour est intéressé? Parce que, rappelez-vous, c'est un circuit urbain, mm-hmm. Il faut fermer tout pendant une fin de semaine. Est-ce que ils sont intéressés à faire un deuxième Grand Prix? C'est ça la question.
Moi, je dirais que oui, parce que c'est sold out, c'est déjà sold out.
Oui, mais ça ne veut pas dire que Montréal est sold out, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à accueillir un deuxième Grand Prix.
Ben, ils sont capables, parce que je pense que de toute façon, bon, je ne vais pas comparer avec le circuit Gilles Villeneuve, mais normalement, le circuit de Singapour doit être déjà prêt. Bon, à part quelques coups de peinture et tout, là, mais...
C'est un circuit urbain, c'est ça. Mais ma question est, tout est fermé dans les circuits parce que c'est dans la rue. Est-ce qu'ils vont faire ça pendant deux fins de semaine? Parce que ça signifie que à peu près pour 15 jours, il va être fermé.
Ah, ça va être plus, moi je pense que ça va être plus que 15 jours, évidemment, avec le
démontage. Mais c'est ça, parce qu'il faut tout préparer et après il faut tout démonter. Et je pense qu'entre les deux Grands Prix, ils ne vont pas défaire les circuits.
Mm-hmm. Mais ça reste à voir. On est encore au stade de rumeurs. Évidemment, le Qatar semble être en priorité. Si ce n'est pas possible, il y a Singapour numéro 2. Et surtout une course
en Portimao.
Non, pas Portimao. C'est un beau circuit, mais c'est plate. Sinon, il y aurait le Bahreïn.
Mais non, il n'y a pas plate pour Portimao.
Il y a Bahreïn, le Autoloop, qui serait candidat pour une course en remplacement, mais ça, c'est à voir.
Il y a Jeddah, hein?
Bref, on va finir là-dessus. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. On vous pose la question, est-ce que vous avez hâte de voir Porsche et ou Audi en Formule 1? Laissez-le nous savoir sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, @lebulletingp. Évidemment, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook F1 Québec, qu'on mettra le lien évidemment sur notre site bulletingp.com ainsi que sur la page du podcast. Évidemment, là, je vais préparer le premier dicté pensé de la saison parce que je crois qu'il y a beaucoup de sujets, entre autres. Sinon, on est toujours disponible sur vos plateformes de balado préférées, c'est-à-dire Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher et autres. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour des discussions, s'améliorer, nous féliciter, critiquer. Mais s'il vous plaît, ne faites pas comme ceux qui ont envoyé des messages de hate à Lance Stroll. Ça, je n'accepte pas ça. Désolé. Donc, Anna et Maria, Julien, un énorme merci d'avoir été là.
Merci à toi, merci à Julien pour ce rejoindre.
Ben, merci à vous deux. J'apprécie toujours la présence à cet excellent podcast. Puis je salue également tous les auditeurs.
Et évidemment, tu es toujours invité. La porte est ouverte, Julien, si jamais tu as envie.
Merci.
Ben, moi, mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du bulletin GP. Et on se retrouve aussi sur notre site bulletin GP pour un dit et pensé qui devrait, espérons-le, sortir au cours de la fin de semaine. Salut tout le monde!